Jean-Marie de là-dessus, là, vous dites il y a une vacance de l'œil, il y a une sorte de vision intérieure.
Ah, c'est deux choses différentes, oui.
Ouais.
Je peux répondre là?
Oui, oui, allez-y. Hein, oui, parce que, ça me semble, je me suis dit, je me disais en vous écoutant, si j'avais su que c'était si compliqué de faire des enfants, j'en aurais pas fait. Parce que on a l'impression d'y être tellement engagé dans cette histoire de totalité.
Alors, avant de vous répondre, je réponds à la parenthèse que vous venez de faire. Moi, je pense qu'il aurait aussi bien valu que tout ce que je raconte, je n'ai pas à le raconter. Voyez-vous, je pense que ces choses se font. Seulement, la difficulté maternelle, ça existe. Ça représente 10% des accouchements. Je ne vais pas rentrer dans le sujet parce que je déborderais, c'est que je faisais une parenthèse. Et cette difficulté maternelle nécessité qu'on l'explore pour pouvoir la soigner et l'empêcher, et donc que l'on mette des mots et qu'on y aille un petit peu au scalpel, là où j'aime autant que le cœur agisse tout seul, et il agit très bien. Le cœur est artiste dans ces choses. Malheureusement.
Il y a des modalités de la
malheureusement, et maintenant avec tout ce qui se passe dans les biotechnologies, les difficultés maternelles ne vont aller qu'à s'aggravant. Et pas seulement les biotechnologies, les modalités sociales, les remaniements de couples, etc. J'en passe, vous me comprenez. On est dans un changement, une mutation au niveau du fait de donner naissance qui est absolument énorme, qui n'a jamais eu lieu auparavant. C'est une première. On est en train de vivre un maelstrom et on voudrait se repérer dans ce maelstrom avec les mêmes repères qu'au 19e siècle. Avec la même morale et la même inconscience. Alors, moi, je suis pour que le cœur parle et que la raison se taise, mais je suis bien obligé d'y mettre quand même un peu de raison, de raisonnement et de recherche, parce qu'on est dans une passe difficile et qu'il faut un soigner et de faire le bilan de ce qui se passe, de ce que les biotechnologies apportent. On ne peut pas simplement les juger d'un point de vue éthique si l'éthique n'est pas éclairée par ce que l'on sait de la structure de l'homme ou ce que l'on devrait savoir.
Si je reviens aux modalités de la totalité, alors vous dites c'est la fonction de l'invisible. Alors là, on s'avance encore un peu dans ce.
Alors je vais revenir
dans cette nébulosité.
Comme j'ai répondu à votre parenthèse, vous aviez une question que j'ai pas
sur les modalités de la totalité,
voilà.
Sur la vacance de l'œil, la vision intérieure.
Je crois qu'on va partir, si vous permettez, de la vision intérieure.
Si vous voulez.
Parce que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que nous avons plusieurs sens, n'est-ce pas, qui fonctionnent des inutéraux. Enfin, tous nos sens fonctionnent des inutéraux, sauf l'œil qui n'a rien à voir, le pauvre. On pourrait dire que l'œil s'enferme dans sa grotte et puis ne voit rien du tout, alors que vous pouvez très bien goûter ce que le liquide amniotique, respirer, sentir, palper. Imaginez, par exemple, moi je vois ça beaucoup en clinique, le mal de dos. Les mamans m'ont beaucoup appris là-dessus. Le dos, c'est l'organe qui est en perpétuel contact avec le velours de la paroi utérine. Croyez pas que ça lui donne des souvenirs? Bon. Donc, voyez-vous, on sent beaucoup de choses in utero. Mais l'œil, lui, il n'a rien à sentir et rien à voir. Alors, il faut voir l'œil d'une autre manière. Pour ça, réfléchissons une seconde. Si je veux réfléchir, d'ailleurs, qu'est-ce que je fais? Je me prends la tête dans les mains et à la limite, je ferme les yeux. C'est curieux. Je ferme les yeux pour mieux voir. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Curieux. Eh bien, in utero, cet œil qui n'a rien à voir devant lui comme objet. Et je souligne au passage, il n'y a pas de relation d'objet tant qu'on n'est pas venu au monde. Erreur qui est faite quand même assez souvent de croire qu'il y a des relations d'objet chez le fœtus. Il n'y a pas de relation d'objet pour lui. Il n'a rien à voir. Il est vacant en aval de lui. Il n'y a rien à voir devant. Mais vous ne croyez pas que cet œil, avec toutes les fibres qui parviennent, fibres nerveuses qui parviennent dans le fond de l'œil, par ces fibres, toutes les sensations des autres sens ont un point de convergence et en même temps, je dirais, de libération, d'excitation engendrée au sens de Freud quand il parle de libérer l'excitation, n'est-ce pas, surtout dans les écrits de 95 par là. Bien, cet œil, eh bien, il est perpétuellement envahi de la marée déferlante continue mais calme, des impressions homogènes recueillies par tous les autres sens et l'ensemble même du corps, ce qu'on appelle la synesthésie, les sensations du corps. Ce qui fait que votre œil, eh bien votre œil, c'est un vrai bébé dans le bébé lui-même, dans le fœtus lui-même. Il est alimenté par l'arrière, par cette vie, par ces sensations, par ces ensembles de flux et d'influx homogènes, ce qui fait que l'œil voit. Il voit quoi? Rien. Et ce rien, c'est quoi? C'est tout. Alors, j'ai pas fait un rébus, je m'explique. Cet œil voit quoi? Rien. Mais il voit, il est animé à voir. Quand vous écoutez une musique, que vous fermez les yeux, vous voyez rien, mais en même temps, vous avez l'impression de voir, n'est-ce pas? Le voir n'est pas simplement un voir quelque chose. Le voir peut être intransitif, sans objet. C'est quand même voir. Et là, qu'est-ce qu'il a à voir? Étant absolument envahi en permanence, abreuvé de ces sensations homogènes, qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, il voit la totalité elle-même en tant qu'il n'a rien à voir d'autre que ce qu'il en ressent. Nous voyons, c'est ça la vision intérieure. Nous voyons sans avoir à voir. Alors vous retrouvez ça par exemple dans tous les écrits mystiques, hein. Le mystique n'arrête pas de dire, le mystique religieux de dire, mais Dieu, montre-moi ta face. Alors je ne veux pas introduire la religion, simplement je fais un rapprochement. Ou saint Augustin dans les Confessions qui dit, mais mon Dieu, mais dis-moi où est ta chambre, où tu habites, voyez-vous. D'où viennent des paroles comme ça? De la folie des hommes? Ou bien du fait justement que cette vision intérieure apporte un quelque chose, hein, qu'on aime tellement, par exemple, rien que dans le fait où quand on s'endort. Et vous, au moment où on s'endort, où on se laisse aller, ça commence à bouger, les formes vacillent, et on se sent bien. Hein. On est aussi bien dans sa vision intérieure que dans ses couvertures, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, nous sommes des êtres de vision intérieure, obnubilés, surtout à l'époque actuelle, par les images extérieures. Mais quand nous pouvons nous détacher des images extérieures, ou bien les prendre sans qu'elles aient une signification conceptuelle. Je ne sais pas que c'est une porte, mais elle est blanche et le blanc m'attire. Bon. À ce moment-là, je vois quelque chose en perception pure. Ce qui fait que des textes comme ceux que vous avez cités de Gustave Roux, de Nathalie Sarraute, sont des véritables témoignages, et il y en a d'autres dans mes ouvrages, Green, n'est-ce pas? Oui. Hein, il y a la fameuse lettre d'Hoffmannsthal, la lettre de Lord Chandos, qui est absolument extraordinaire, un classique de l'histoire. Il y a des moments où tout d'un coup les choses nous apparaissent. Mais qu'on soit poète ou qu'on soit amoureux, j'insiste là-dessus, il faut toujours revenir à la vie amoureuse. Pourquoi? Parce que c'est un moment où nous quittons le monde et où, de par la présence que l'autre nous donne, et dans laquelle tout d'un coup nous nous sentons tellement nous-mêmes recomposés, que l'on perd un peu son emprise sur le monde, y compris surtout l'emprise conceptuelle, n'est-ce pas? On lâche. Mais quand on lâche, on se met à voir. Pourquoi les amoureux sont heureux? Parce qu'ils sont ensemble, mais aussi parce qu'ils ont récupéré la vision intérieure. Et cette vision intérieure, c'est correspond à un petit peu à ce qu'on a appelé l'âme, si vous voulez. On n'a pas une âme au sens, mais oui, mais on n'a pas une âme au sens où elle descend quelque part. On a une âme anthropologiquement.
Donc c'est une totalité impossible à définir, mais qui nous définit.
Exactement.
Ah ben dis donc, il faut pouvoir l'admettre, hein.
Ben écoutez, on peut y mettre 20 ans, vous savez, c'est pas trop. Ouais. Ou plus. On peut y passer sa vie, ça donne du sens à la vie. Ne cherchons pas le sens à la vie de manière existentialiste désespérée. On peut simplement se dire que, au fond, la vie, notre vie, c'est finalement de rester à l'écoute de cet impossible qui nous fait et sur lequel aucun mot n'a prise. Mais ne nous abusons pas à en faire une entité métaphysique. C'est une chose clinique.
Mais vous en faites bien une entité métaphysique, vous parlez d'âme.
J'ai rappelé la notion d'âme. Et dans le livre Les logiciels de l'âme, je m'emploie à montrer que la notion d'âme est un concept qui n'a plus cours, si vous voulez, mais qui en même temps, dans son intuition, peut être fondé par une certaine réflexion clinique et une réflexion qui procède de manière presque de forme logicielle, n'est-ce pas ? Donc moi, pour moi, l'âme n'a rien à voir avec la métaphysique.
Le visage est ordinairement compris selon ses fonctions de communication et comme le siège d'organes sensoriels et de possibilités fonctionnelles telles que la vision, le goût, l'odorat et l'ouïe. Le visage qui ne comporte que des fonctions sensorielles est appelé une gueule. C'est la gueule de l'animal, en même temps que dans certaines circonstances le visage d'un homme, visage alors déformé ou devenu rebutant. Le mot gueule vient d'un radical qui veut dire avaler. Gourges signifie gouffre, et goula est le gosier. Ce qui implique que la fonction prépondérante est ici celle de manger, d'absorber, de mordre aussi. La bouche est au centre de la gueule et la caractérise, tandis que ce sont plutôt les yeux qui occupent cette place et ce rôle dans le visage. Dans le visage, le sens est inversé. On introduit moins que l'on ne traduit. On recueille, mais on le signifie. Le visage est ainsi expressif bien autrement que la gueule. Non seulement ses modes sont plus variés, mais il est le lieu d'émergence d'un monde intérieur plus que celui de la prédation et de l'organicité. À ce titre, le visage humain est l'organe spécifique par quoi se voit et se montre qu'un monde intérieur a pris la place de l'adaptation simple de l'animal au monde extérieur. Notre sensibilité au visage en témoigne. Nous savons déchiffrer ses expressions et les émotions qu'il reflète, d'autant qu'il parle. Tout se passe comme si l'être, au-dedans de soi, disposait d'une fenêtre sur le monde extérieur, d'où il peut se pencher, recevoir et adresser des messages. À l'inverse, cette fenêtre est un bon lieu d'observation. Tous les sens y concourent et ne cessent d'apporter des informations sur le monde environnant. On voit, on entend, on sent, on goûte, on tâte aussi dans certains cas, sans compter qu'on garde le sens de l'équilibre de la situation, de la position. Mais là, notre différence avec l'animal s'annule presque. Il est lui-même doté de capacités semblables d'observation et de surveillance. Entre ces deux extrêmes, l'expression et l'observation, le visage a une troisième fonction. Il établit la ligne de démarcation entre l'intérieur et l'extérieur. Il revêt ce qui est dedans. Il affronte ce qui est dehors. Le visage est la peau de l'organisation psychique. En tout cas, c'est une frontière. Les gardiens sensoriels y veillent, sans cesse aux aguets, et si cela est nécessaire, on abaisse les barrières. Le visage se verrouille ou se masque. Il se dérobe ou se transforme en muraille. Solution intermédiaire, il fait jouer l'identité, s'abrite derrière elle, derrière ce simulacre convenu entre soi et autrui.
Vous dites, alors justement pour revenir à cette idée, vous dites que le nouveau-né nous montre le réel, parce qu'il vient du réel. C'est là que se situerait votre idée d'âme. Ce que nous sommes essentiellement et ce que nous nous efforçons de ne pas être. Voilà un petit peu comment vous définissez le nouveau-né.
Oui.
Après avoir parlé de cette peur de mettre au monde, c'est la peur de l'angoisse de mort.
Le nouveau-né, ce que je dis là, il nous le montre, et il faut le voir, savoir le voir.
Réel, c'est un terme, vous allez me le définir.
Après, juste après, il faudra le définir. Mais on va d'abord partir, encore une fois, de la clinique. Quand un bébé naît, il crie en général pendant quelques minutes. Et ensuite, il se calme. on le met face à sa mère ou pas trop loin, si vous voulez, et on voit, il arrête de crier, et son œil parcourt, et s'il tombe sur les yeux de quelqu'un, il les fixe. Non pas qu'il regarde, il ne sait pas encore regarder, mais cet enfant qui vient d'être sorti de là est complètement hagard, et encore plein de sa vision intérieure, et vous voyez la vision intérieure encore à l'œuvre dans l'œil d'un nouveau-né d'une ou deux minutes.
Ce que vous appelez le proto-regard.
Ce que j'appelle le proto-regard.
Et qui nous fait mère et père.
Attendez, là vous allez très vite.
Je vais un petit peu, excusez-moi. Allez-y.
Oui. Il faut savoir une chose, c'est que pendant cette période du proto-regard possible, parce qu'après on va s'habituer, on va commencer à avoir des échanges de regards. Si j'ai appelé ça proto-regard après les travaux du docteur Marc Pillot, qui lui parlait de lever des yeux, mais qui est le véritable découvreur de cette notion dès 94, si j'ai appelé ça proto-regard, c'est que j'ai compris qu'il fallait qu'il n'y ait pas de confusion entre ce regard très spécifique, qui est cette espèce de... comme ça, quoi. Hein, une chose qui arrive, des yeux dévorants, haletants, des yeux complètement, comment dirais-je, mis à mal. On sent un être mis à mal par la naissance. Il fallait faire une différence entre ça et ensuite les premiers échanges de regards où l'enfant a déjà pu commencer à s'acclimater au monde. Et là, il y a des échanges. Donc, il fallait séparer le proto-regard. Et il faut savoir une chose, c'est que pendant cette période d'environ une ou deux heures, où est possible le proto-regard. Après, il va commencer à ne plus être aussi intense ni perceptible. Vous avez une décharge d'hormones, qu'on appelle les catécholamines, qui est la plus forte qui puisse exister chez n'importe quel être humain pendant la vie. Elle est, par exemple, je ne sais plus trop, mais je crois qu'elle est le double de ce que l'on peut avoir comme décharge au cours d'un grave accident ou quelque chose comme ça. Enfin, elle est énorme. Il y a une décharge de catécholamines absolument énorme, ce qui donne sans doute cette force au proto-regard, qui est un appel, non pas que l'enfant fait appel, c'est la totalité en lui, y compris corporelle, qui crie par les yeux après avoir crié par la bouche. Parce que là, c'est plus la bouche, et c'est les yeux qui cherchent la chose qui leur manque. Quand une maman vient de mettre au monde un enfant qu'elle a porté pendant des mois, quand le papa qui est à côté... un petit peu gêné, toujours un peu gauche, enfin, il sait pas trop comment se placer, hein. Bon, c'est sa position moins bien définie que celle de la femme, bien entendu. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand il voit ce regard-là, ils sont pas indifférents. Et le mot bouleversé n'est pas suffisant. Il les change. Il les parentalise. Et il faut savoir que nous avons là, sur le plan de la clinique, un moment essentiel qui est raté dans la grande majorité des accouchements, et parfois qui se passe sans que personne n'y ait prêté attention, mais si les mamans le ratent, hein, et bien souvent elles viendront nous dire « j'ai raté mon accouchement ». Parce qu'il n'y a pas eu cette espèce de contact qui vient pénétrer profondément la mère et le père, et qui fait qu'à ce moment-là, l'élan maternel se lève pour le bébé, indépendamment de toute réflexion, si vous voulez. Voyez-vous, ce regard a véritablement les clés du cœur de ses parents, et il parentalise ses parents. Donc ce proto-regard est absolument essentiel.
Qui ne dure que quelques minutes.
Ah oui, le champ, l'entrebâillement pendant lequel c'est possible est assez court. Hein. Et là, on a quelque chose qui, sur le plan clinique, ne doit plus être négligé, parce que vous avez déjà, dès à présent, par cette parentalisation très forte, qui dure toute la vie ensuite, les mamans en reparlent des années après, hein. Et bien, par cette parentalisation très forte, vous avez une espèce de garantie contre la maltraitance. Comment voulez-vous secouer un gamin qui vous agace parce qu'il mange pas, alors que vous l'avez connu dans ce proto-regard? Vous comprenez, vous ne pouvez pas lui en vouloir. Vous ne pouvez que l'aimer. On est là aux racines du lien mère-enfant, père-enfant. Ce lien, il vient non pas d'un amour qu'on a décidé d'avoir pour l'enfant, mais d'une expérience qui nous a fait vivre, hein, d'un appel au secours d'une telle force qu'on est changé.
les constituants de la naissance. La vie prénatale aboutit à établir chez l'homme une grave problématique de naissance en raison de l'incompatibilité immédiate entre l'être déjà né au sein de son milieu originel et le nouveau contexte dans lequel il advient. L'enfant qui vient au monde perd un monde. Ceci va à l'inverse de ce que l'on imagine habituellement. Un passage et une délivrance, la sortie d'un long tunnel et enfin l'arrivée au jour. Mais ce qui paraît évident doit être analysé. Sous des apparences physiques et moyennant des mythes ou des interprétations qui en ordonnent le sens, on maintient encore une perspective simplificatrice du temps de notre avènement. Ainsi, la naissance reste mal connue. Provoquée brutalement par la sortie du corps hors du milieu utérin, elle tombe sur l'être humain comme un désastre. Ce qui déclenche, au moment même où elle doit commencer, un ébranlement sans précédent qui détermine entre autres un véritable complexe de naissance. Est-ce la mort ? Certes, elle est risquée. Mais l'esprit peut naître sous réserve de l'établissement du lien maternel et de ses effets. Ils sont perceptibles dans le langage du visage et au niveau du don rétablissant les moyens et les représentants de la totalité originelle. Il s'agit là des constituants de la naissance, équivalents à des compétences spécifiques ouvrant et assurant l'espace natal. C'est une adaptation qui n'est pas prévue par les dispositions naturelles et une évolution qu'il faut explorer pas à pas. On la prend trop souvent pour le simple effet d'un programme ou de l'instinct, ce qui revient à entretenir l'ignorance de ce qui nous fait naître réellement.
Marie Delassue, vous dites qu'il y a trois naissances de l'homme. Hein. Il y a la vie prénatale, on renaît après l'accouchement par une naissance psychique, et ensuite, il y a la naissance du sujet. Hein. Il y a ces trois étapes dans chacune de nos vies.
À laquelle le professeur Yvonne Knibiller, quand nous discutons, et au dernier congrès l'a dit tout fort, souhaite ajouter une quatrième naissance, la naissance sociale. Alors, on nous en a quatre maintenant. Mmh. Bon, mais pour prendre les trois naissances très rapidement, cette naissance intra-utérine, elle se comprend facilement. L'être né, l'être en tant que structure neurontologique, n'est-ce pas, né avant même que nous naissions. Cet être qui arrive au monde, il faut qu'il puisse réussir à être dans un monde qui n'est plus fait pour lui. Donc il faut qu'il naisse une deuxième fois. Mmh. Une fois qu'il s'est habitué à ce monde, l'originaire, un jour ça casse, parce que la mère est plus la même. D'abord je t'aime plus. D'abord je vais te tuer. D'abord t'es méchante. D'abord t'es pas ma mère. Tout ça parce que la mère est obligée de se progressivement transformer en contrôle, en contrôleuse, si vous voulez, de l'ordre à respecter, en gendarme, si vous voulez, et le gosse qui avait tout, qui s'y retrouve plus, à un moment donné, ça ne coïncide plus dans sa tête entre la mère qui donnait tout et celle qui maintenant réprimant des gendarmes tout. Donc à un moment donné, se produit le matricide, ce qui correspond dans notre théorisation à l'Œdipe, mais vu un peu d'une autre manière. Alors à ce moment-là, le jour où vous sabordez votre mère, elle rentre dans votre inconscient, vous la perdez pas. Mais c'est plus la même chose. Donc vous êtes tout seul. Alors c'est la naissance, la troisième, la naissance du sujet. En tant que moi. Et l'enfant dit, moi quand je serai grand, je. Il vient de créer le temps, d'entrer dans le temps. C'est la troisième naissance, la naissance du sujet. Alors vous voyez la distance qui peut se produire entre la naissance de l'être et la naissance du sujet. Il y a un parcours absolument énorme et qu'il faudra continuer d'explorer, hein, parce que dans cette vie-là, n'est-ce pas, il y a véritablement la genèse, la matière de la mise en place de l'humain. Et toutes les déformations possibles et imaginables se jouent à partir, dans ces moments-là, à quelque niveau que ce soit de tout ce parcours.
Vous dites la possibilité de survivre et de se développer vont d'abord dépendre du sens donné à la naissance. Ça veut dire qu'il y a toute une pathologie de la naissance, alors. Il y a toutes sortes de maladies de la naissance.
Alors, si cet enfant ne peut pas éprouver une continuité de totalité suffisante donnée par sa mère après la naissance, il va refuser la naissance. La refuser plus ou moins. Et ce qu'on a appelé la dépression du bébé, par exemple, terme bien vague, n'est-ce pas, dans le fourre-tout. Ce qu'on observe ensuite comme développement de telle ou telle difficulté de développement, comme telle ou telle difficulté des fonctions physiologiques, la régurgitation, les troubles respiratoires, les pleurs subintrants, etc. Bon, les syncopes, mort subite peut-être. Eh bien tout cela, et l'autisme. Tout cela, c'est quoi? C'est des signes de naissance refusés, ou du moins catastrophés, accidentés. Et nous appelons ça des maladies de la naissance. Nous en avons repéré actuellement 7 grands groupes, ce qui nous permet de soigner ces bébés si nous pouvons intervenir dans un délai inférieur à environ 9 mois post-natal, parce qu'après, les structurations neuronales commencent à tenir bon, mais on a environ 9 mois, c'est-à-dire l'équivalent d'une grossesse, pour pouvoir guérir les maladies de la naissance avant qu'elles ne deviennent vraiment des maladies de la naissance. Voyez-vous? Et ça, c'est extrêmement important, parce que là, il y a une prévention néonatale fantastique. Mais si on prend la régurgitation, par exemple, au mot, et qu'on donne des épaississants, après, on trouvera autre chose comme maladie. Le bébé va faire une chaîne de maladies, hein, parce qu'il est dans une chaîne d'inconfort et dans une chaîne de refus de sa naissance.
La question que je vous ai posée tout à l'heure et que on a mangé en route, c'est le nouveau-né nous montre le réel. Il en vient. Et la question que je vous posais, c'était qu'est-ce que c'est ce réel dont vous parlez? On est parti sur le proto-regard et on a oublié le réel.
Eh bien, pardon.
Jean-Marie de Lassus, buvez un petit coup.
Je bois un peu.
Oui.
Non pas que le réel m'étrangle, mais c'est quelque chose qui nous étrangle, en effet, parce que c'est le réel. Pourquoi le réel? D'abord, prenons-le au sens où Lacan en parle. Mm-hmm. Je suis pas loin de ce sens-là. Hein. Mais nous sommes, nous, dans la réalité. Est-ce que la réalité est notre réel? Non, la réalité, c'est notre construction. Elle est faite d'éléments du monde extérieur et des agencements que nous y avons apportés, qui vont dans tel ou tel sens, mais qui font en tout cas que jamais nous n'arrivons à reproduire le réel. C'est le tourment des peintres. Cézanne qui ne bouge pas, qui recommence sa Sainte Victoire toute sa vie durant, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est si ce n'est la recherche du réel? Il est là à gratter la réalité, à s'affronter à elle en lui disant « Mais montre-moi ton visage, montre-moi ton visage réel. » Parce que nous sommes habités du réel, mais nous habitons la réalité. Voilà la différence. Ce réel dont nous sommes habités, c'est cette vision intérieure qui nous l'a montré. Et ce réel ne peut pas être objectivé par quoi que ce soit. Au mieux, néanmoins, par un regard, par l'éclat des yeux. C'est à ça qu'on reconnaît l'amour. Ça veut dire la communication des réels. Le reste est réalité. Le bijou que mettra la femme est une réalité qui ne vaudra jamais l'or de ses yeux, qui lui est beaucoup plus directement en relation avec le réel.
Et de quel réel vient le nouveau-né?
Il vient du réel au sens strict du terme, l'absolu, l'homogénéité, la totalité de la vie. Ça, c'est le réel. Nous sommes des êtres de ce réel et des exilés de ce réel. On joue pas les paradis perdus, c'est pas mon genre. Hein? Mais nous sommes des exilés de ce réel, mais je vous dis, il nous habite alors que nous habitons la réalité. Le rapport entre le réel et la réalité, c'est ce que j'appelle non pas le symbolique, mais la symbolicité. Ça veut dire que la réalité doit pouvoir causer du réel, même si elle peut pas nous le montrer. Mais nous avons le droit d'affirmer et de revendiquer le réel. Le réel comme étant notre véritable nature. C'est pas la réalité. Et vous savez, ajoutez une petite note, quand les parents sont porteurs de ce réel par rapport à leur enfant, vous savez que les enfants ont une bonne enfance. Vous le sentez bien. Qu'est-ce que c'est que la bonne enfance? C'est une enfance où les parents vous ont pas plongé dans la réalité avec un jouet rouge, un jouet vert, un jouet bleu. C'est une enfance où les parents ont été pour vous des garants de la réalité du réel. Et vous avez senti une atmosphère pendant votre enfance qui fait que vous êtes relativement garanti pour vivre ensuite. Mais si on vous a mis trop tôt dans la réalité, dans la performance, etc., vous casserez la figure, tôt ou tard.
C'est ce que disait Bettelheim quand il parlait des enfants qui mouraient d'être trop adaptés.
Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Il y a Bettelheim et Winnicott qui ont très bien parlé de ces choses-là.
Pas incompréhensible. Ni lui, ni sa douleur, ni son besoin de bonheur. Le mal de tête n'est pas irrémédiable. Il n'est pas dû non plus à quelques ensembles de pulsions inconscientes qui seraient la cause de déviations qu'il faudrait corriger ou maîtriser. Le mal n'est pas originellement en nous. Nous ne sommes pas fautifs de manière innée. Le mal vient seulement de ce que nous ignorons gravement la réalité qui nous structure. Ce qui fausse le sens et par là même le devenir de nos existences. Bien plus, nous nous retournons contre nous et même en croyant bien faire, nous nous persécutons. Pour comprendre, nous comprendre, il faudrait humblement recueillir l'héritage neurologique qui longtemps s'est exprimé intuitivement en nous faisant inventer les dieux et nous réclamer d'eux. Mais c'était sans savoir qu'il s'agissait de nous, au point que cette ignorance a contribué à retarder, si ce n'est à nous faire manquer, l'institution de notre propre réalité. À cet égard, l'analyse effectuée à partir des fondements neurologiques n'est pas à craindre. Elle n'est pas nécessairement réductrice. Elle est aussi inductrice. Elle oriente la recherche et ouvre les chemins. Nous envisageant ainsi, dès la spéciation prénatale qui nous caractérise, elle démontre notre origine et précise ce qui nous constitue, si toutefois nous acceptons cette charge et cette libération. Car c'est de liberté qu'il s'agit, non pas celle qui est souvent revendiquée pour exister au jour le jour dans une obstination qui confine à la méconnaissance. Ce détournement, apparemment commode pour garantir le droit de tout faire et de tout régenter, enchaîne en fait aux conséquences infinies des actes qui ont pris un mauvais départ. Quoi qu'on veuille, il existe une réalité anthropologique dont les strates, assimilables pour une part à des agencements logiciels, ne sauraient être négligées. La liberté n'est pas d'ignorer ces données, mais de les réfléchir, approfondissant et prolongeant ce qu'elles impliquent. À partir de là, il revient à chacun d'agir selon ce que bon lui semble, à la seule condition de ne pas nuire à ce qu'il est, ni à ce que chacun doit avoir les moyens d'être. Cela est d'autant plus important que nous sommes en train de tourner la page. L'homme réalise aujourd'hui son adaptation au monde par une indexation croissante aux choses, à leur ordonnance et à leur valeur. Les logiciels de l'âme s'apparentent de plus en plus à ceux de la matière. L'homme est sur le point de devenir un produit fini, alors qu'il lui faudrait pouvoir garder l'accès à l'âme qui le définit. Jean-Marie Delassus, Les logiciels de l'âme. Thank you.
première question que j'aurais dû vous poser, dans le fond, Jean-Marie de Lassus, et tous nos malheurs viennent du fait qu'on confond l'accouchement et la naissance.
Absolument. Hein? Absolument. Il faudrait arrêter
dans
ça.
Dans le fond, toute cette psychanalyse de la naissance, ce logiciel de l'âme, ces livres que vous écrivez, c'est pour vous dire, c'est pour dire, arrêtez cette confusion. De là viennent nos malheurs.
Ah oui.
Mais accoucher, c'est quand même terrifiant, c'est mettre un être à la mort. Dès qu'un homme est né, il est assez vieux pour mourir, disait Heidegger.
Oui.
Et pour une mère, quand elle accouche, c'est bon, à côté de la joie d'accoucher, il y a ça aussi, de mettre un être à la vie, mais à la mort.
Dieu que les femmes le disent, et oui. Que je l'entends. Mais il y a une chose, s'il y a le proto-regard,
oui.
On passe par-dessus. Si l'enfant appelle avec ce regard-là, si la maman voit ça, elle passe par-dessus. Et puis, de toute façon, deuxième chose, mm-hmm. Elle est tellement démunie par le fait qu'en même temps, elle sait bien qu'elle donne la mort, que ça rejoint sa propre angoisse de mort, et que pour lutter contre son angoisse de mort, la seule solution, c'est de pouvoir donner la vie. C'est-à-dire que donner la vie, ça commence après l'accouchement, et c'est donner naissance.
C'est la conquête de l'originaire. Enfin, c'est le passage par l'originaire.
C'est l'entrée, oui, là. C'est...
Oui.
Je te prends par la main, mon petit chéri, tu viens. Viens, je vais te montrer le monde. Mais c'est pas le monde de la Tour Eiffel.
Mm-hmm.
Hein? C'est le monde en tant que version natale de ce que tu as déjà vu quand tu étais dans mon ventre. Alors, si vous faites ça, voyez-vous, il n'y a plus question de la mort. Vous êtes vraiment à donner la vie. L'accouchement n'a pas vraiment donné la vie. Il a été le déclic, si vous voulez, si je puis dire, pour pouvoir commencer à donner la vie par vous-même, parce qu'avant, c'est la nature qui donnait la vie dans votre ventre. La nature travaillait à votre place. Vous laissiez faire par la nature. Quand le bébé a été accouché, vous avez à le faire naître, c'est-à-dire à lui donner la vie, et c'est vous-même, de par votre être, que vous l'engagez à entrer dans la vie. Vous prenez la place, le relais de la nature.
Mais au lieu de faire un être pour la mort, on fait un homme qui souffre toute sa vie d'un besoin de totalité. C'est très différent.
Alors, madame, oui. Donc, une responsabilité éthique. Comment cette totalité qui n'est pas peut-elle être? Elle ne peut pas être comme un verre et sur cette table, même s'il est en cristal. Quel que soit son prix. Aucune chose ne peut être la totalité. Mais si je vous donne quelque chose, avec l'intentionnalité de vous donner, non pas quelque chose, mais la chose même. Quand vous le recevez, vous le ressentez comme la totalité. Et vous en êtes étonné, vos yeux le montrent, et vous me renvoyez ce que je vous ai donné. Qu'est-ce que je vous ai donné? Rien de concret, mais tout au niveau de l'intentionnalité. Et ça circule. Donc, la conclusion, c'est que la totalité n'existe pas, elle est entre nous, si nous le voulons bien. C'est pour ça que la dernière partie des logiciels de l'âme s'appelle l'entretien des hommes. Les hommes ont à avoir des entretiens et à s'entretenir et à entretenir entre eux la totalité. La totalité n'existe pas en soi, même si c'est une structure que nous acquérons in utero. Mais aucun objet n'est la totalité. Alors, la totalité ne peut pas être si elle peut être dans l'entre-deux, dans l'entretien des hommes. C'est la responsabilité éthique. Et c'est terrible de penser ça, parce qu'on se rend compte à ce moment-là que tout ce qu'on fait, que tout ce qui peut se légiférer, s'institutionnaliser, se bâtir, ça va dans quel sens? Est-ce que ça va dans le sens de l'entretien des hommes ou dans le sens de l'utilisation des hommes? Dans le sens de l'entretien de la vie des hommes ou dans le sens de leur d'une espèce de dépression imposée à chacun parce qu'il n'imagine même pas que la chose est entre nous, il peut même pas l'imaginer et c'est pour ça qu'il faut se battre et que la science là pour autant que c'en est une peut nous avancer, n'est-ce pas?
La maternologie,
l'anthropologie critique de manière à ce que on prenne enfin conscience que la chose est entre nous, entre nos mains, et que nous la dilapidons en essayant de prendre pouvoir sur autrui, pouvoir sur les choses, c'est-à-dire, à ce moment-là, cette mort dont vous parliez en citant Heidegger.
Merci beaucoup, Jean-Marie de Lassus. Merci
beaucoup.
C'est moi
qui vous remercie.
À lire de Jean-Marie Delassus, Psychanalyse de la naissance chez Duneau et Les logiciels de l'âme chez Encre Marine. Les textes étaient lus ici par Catherine Artigala et Emmanuel Lemire.